Vous écoutez
RMC. RMC. Le bras de fer GG.
They don't know how to referee anymore. Who will take action?
Ils ne savent plus comment arbitrer. Qui fera bouger les choses? Qui prendra ses responsabilités? Ce n'est pas à moi d'arbitrer les matchs. C'est lui avec ses lunettes. Il n'a pas besoin de lunettes car il ne voit rien. Il ne devrait pas être arbitre. C'est devant ses yeux, la balle va doucement. C'est un mauvais arbitre. Il devrait être mis à l'écart.
He's a bad referee. He should be out of the referee circle.
La merveilleuse petite prod, comme on dit dans notre jargon, de Kylian Vérov, notre producteur, du coup, évidemment, c'est un métier. Je disais, c'est parti, c'est presque parti pour le bras de fer, puisqu'avant de vous laisser vous écharper, on va accueillir Eric Salio, notre spécialiste tennis de la rédaction RMC Sport. Salut Eric.
Salut, grande gueule.
Salut
Eric.
Merci de passer une petite tête. Il fait beau à Monte-Carlo, Eric?
Il fait un temps merveilleux et au moment où je vous parle, il y a la finale du tournoi journaliste. Donc vous avez compris que je suis pas
éliminé en demi au bout d'un match fou.
Éliminé à cause d'une erreur d'arbitrage. Vous le croyez ça?
Encore. Ah là là. T'es plutôt revers délier long de ligne ou tennis pourcentage?
Je sais tout faire.
Ouais. Le magicien. La main, on t'appelle.
Demande à Sarah.
Bien sûr. On va en parler. On vient d'entendre.
En double.
Alors, on vient d'entendre Daniil Medvedev cette semaine. Il a coutume de râler, évidemment. Eric, tu vas nous le confirmer, mais bon, c'est un nouvel exemple. Il y en a eu plusieurs de joueurs insupportés ces derniers temps par ce qu'ils considèrent être un arbitrage un petit peu médiocre. On va pas se cacher.
Mais c'est vrai que depuis quelques mois, on était habitué aux annonces électroniques adoptées sur la plupart des tournois. Mais le retour sur la terre battue monégasque nous a ramené les contestations, les fights, joueurs-arbitres. Comme par hasard, Daniil Medvedev et Holger Rune ont été victimes d'erreurs d'arbitrage. Ça anime les rencontres et ça n'a pas eu d'impact sur le match. En revanche, hier, une énorme double faute de Tsitsipas a été oubliée à la fois par un juge de ligne et l'arbitre de chaise. Sinner aurait dû mener 4-1 au troisième et foncer vers la finale. Son cerveau troublé lui a fait venir des crampes et le Greg s'en est sorti par miracle. Alors, avec Medvedev, vous imaginez bien que la conférence de presse, elle aurait monté dans les tours. Mais l'Italien, lui, a affiché une zénitude assez incroyable.
Ce n'est pas mon job de juger. Disons que la position de l'arbitre était pourtant idéale. La ligne à juger est la plus simple. Maintenant, il faut l'accepter, c'est ainsi. C'était un match important. Les choses ne vont pas toujours comme on le veut. Je vais le prendre avec le sourire. Demain, il y aura une belle finale sur le central et je serai à la maison.
La situation est néanmoins brûlante. Souvenez-vous à Dubaï de la disqualification de Rublev qui avait injurié un juge de ligne. Stefano Tsitsipas, qui est pour la paix des ménages, se prononce aussi pour la disparition du jugement humain.
Moins de drame, c'est certain. Cela permettra au jeu d'être plus propre et d'éviter les erreurs et les crises de colère comme celles que nous avons vues en début de semaine sur le court central. Oui, le tennis mérite des drames, mais je pense qu'il devrait se dérouler sur le court de tennis avec des performances plutôt que des jurons et des cris. Ce n'est pas une belle facette du sport.
Alors, en principe, on ne verra plus ces scènes l'an prochain. L'ATP a décidé d'appliquer en 2025 l'Electronic Line Calling Live sur tous ses tournois. En revanche, Roland Garros devra prendre une décision cruciale. Et quand on connaît l'importance de la tradition de l'arbitrage en France, je souhaite bon courage à Gilles Moreton.
Merci beaucoup Eric, en effet il aura du boulot. Tu restes avec nous évidemment si tu le souhaites pour ce débat. Pour l'instant, un Christophe Cessieux, je disais courageux, la tendance est derrière toi, le peuple est derrière toi Christophe, le peuple des auditeurs de RMC, 67% des sondés pensent que la technologie est en train de tuer
l'objectif de Sarah, c'est de reprendre un point.
Non mais ces mêmes personnes-là, elles sont capables de s'offusquer contre des erreurs d'arbitrage et de venir parler dans tous les talks d'RMC pour dire qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, que ce soit en foot ou en rugby.
Justement, tu gardes la main, Sarah, puisque tu es dans la team qui a du retard à combler. 33% des auditeurs qui ont voté pensent que la technologie ne va pas tuer l'arbitrage. Garde la main, explique-nous
pourquoi.
Alors,
moi, je vais vous expliquer une petite chose. Alors, je pense que Pascal et Marie seront d'accord avec moi. La situation la plus délicate pour un sportif, c'est une forme d'injustice. C'est-à-dire que le sportif est dans une insécurité. Qu'est-ce qui cadre le sport? Ce sont des règles. Donc, c'est soit un chronomètre, c'est soit des juges, et c'est soit aussi une interprétation d'une situation. Et donc, c'est ces trois choses-là qui font qu'à un moment, un sportif peut se sentir en fragilité dans sa performance. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en 2024, on a mis de la technologie, parce que le monde évolue, on a mis de la technologie qui rassure un sportif, qui à un moment, un athlète, sait qu'il va y avoir un jugement qui est proche de la perfection. Et vous voulez nous dire,
tu parles, oui,
proche de la perfection. Il y a des interprétations. Donc en fait, cette situation, elle est là aussi pour rassurer un sportif. Et à partir du moment où on nous dit aujourd'hui, ben non, en fait, la technologie, elle va tuer le sport, on va enlever la technologie et on va revenir en arrière, tu vas refragiliser la construction d'un sportif à un moment ou un autre dans son entraînement. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui ça peut tuer le sport. En revanche, ça modifie le déroulement. Parce que tu as des laps de temps quand tu dois vérifier des choses, que ce soit la VAR, que ce soit un arbitrage vidéo, que ce soit de faire appel à la vidéo, que ce soit en escrime où on doit revoir encore la vidéo. Là, en fait,
ça casse le rythme. C'est
exactement.
Ce que tu veux dire,
là, en revanche, ça modifie le déroulement d'une compétition, mais ça va pas tuer le sport. Ça va modifier son déroulement.
Ça va pas tuer le sport. Le débat, c'est est-ce que ça va tuer l'arbitrage?
Au contraire, ça l'encourage.
Non, mais non, ça l'aide.
Ça le renforce.
Pour moi, ça le renforce, en fait.
Ça sécurise
des joueurs qui sont sur un carré vert et qui sont capables, limite, de se mettre sur la tête, sur la tronche, parce que il n'y a pas eu un coup de sifflet qu'il fallait.
Donc, en fait,
il y a un moment, ça
si
doit faire descendre la pression.
Si on vous écoute, il faudrait, à terme, que l'intelligence artificielle règle tout ce qui se passe
non,
sur un
pas
terrain. C'est-à-dire
qu'il n'y a pas du tout
l'aide,
mais aujourd'hui, dans les faits, c'est un peu ce qui se passe.
Aujourd'hui,
les arbitres ne prennent plus aucune décision de par eux-mêmes. Ils s'appuient sur la technologie, que ce soit en tennis, que ce soit en rugby.
Non, mais ils interprètent quand même. En rugby, ils interprètent.
Ils interprètent. Ils attendent d'avoir. L'arbitre ne fait plus vraiment son travail.
Aussi.
Il attend d'avoir 15 vues de différents angles de caméra pour prendre une décision.
On n'est plus capable d'accepter le jugement humain. On n'est plus capable d'accepter le jugement humain.
Est-ce qu'il est toujours aussi bon qu'avant le jugement humain maintenant qu'on sait qu'on a la technologie?
Mais oui, il est aussi bon.
Il y a forcément une marge d'erreur.
Il est toujours aussi bon. L'accepter. Mais grâce à la vidéo, tu peux te rendre compte mieux. Et même nous, les premiers juges, c'est qui? C'est nous dans le canapé.
Oui.
Et on fait quoi quand il y a une action un peu litigieuse sur un match?
On
attend de voir le ralenti parce qu'on veut revoir, parce qu'on n'est pas sûr non plus d'avoir.
Mais aujourd'hui, justement, de par cette position, les gens sont beaucoup plus intransigeants avec les arbitres parce qu'on estime que les arbitres ont droit à toutes les technologies.
Et les gens qui regardent la télé
et les spectateurs.
On s'en fout du spectateur, c'est pas à lui de juger.
Regarde ce qu'a dit Medvedev cette semaine. Là, il s'en prend à l'arbitre.
Il est sur le terrain, il a raison, d'une violence incroyable. Medvedev,
si je peux me permettre,
oui, Christophe, c'est n'importe quoi là, franchement.
Christophe, tu es un ancien comme moi, donc je ne vais pas trahir ton âge. Mais comment dire, ce que Medvedev fait, d'autres avant lui l'ont fait,
oui,
et d'autres après le feront. C'est pas la technologie qui fait qu'il y a des joueurs qui pètent les plombs, quel que soit le sport.
Non, mais je
trouve d'accord là-dessus.
La technologie, en revanche, du fait que on se base quasiment tout le temps sur la technologie, lorsqu'elle n'est plus vraiment là, et c'est le cas sur les terrains en terre battue, eh ben les arbitres sont paumés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'œil, ils n'ont plus le réflexe,
parce que tout ce
qui sollicite évidemment permet de progresser. Là,
la
finalement,
technologie
on
les responsabilise. C'est ce que tu veux dire, exactement. Je suis pas d'accord avec toi.
Pardon.
Je vais prendre l'exemple du sport qui m'est cher, du football. Depuis l'apparition de la VAR, les erreurs sont moins flagrantes, moins nombreuses.
Mais les polémiques sont plus nombreuses en revanche.
Tout au long, mais la polémique, ça, on peut y revenir.
Ouais.
Ça n'empêchera pas la polémique.
Oui.
Pourquoi? Parce que celui qui juge in fine la technologie, c'est encore un homme. Celui qui dit il y a pénalty ou il y a pas,
oui,
il a vu des images, il est dans son bus, et il regarde des images et il va donner après en fonction des images.
De temps en temps, mais pas toujours.
Chose que l'arbitre n'a pas, et vient donner son jugement. C'est toujours l'homme qui, à l'appui de la technologie, va donner, une décision. Mais ça limite l'erreur, mais l'erreur, elle est humaine, donc elle existera toujours.
Pour revenir aux arbitres
du football, c'est pas vrai ce que tu dis. Ils sont en perpétuel jugement, les arbitres. C'est quand, justement, dans le bus, ils pensent qu'il y a une erreur commise par l'arbitre, qu'il le sonne, en fait, et qu'il
qui lui demande et qui l'invite à venir voir les images pour le déjuger en quelque sorte. Donc je pense pas qu'en tout cas au football les arbitres soient déresponsabilisés. Par contre, aujourd'hui, il faudrait qu'ils uniformisent leurs décisions et ça c'est plus difficile à faire en fonction des équipes qu'ils arbitrent, quoi que tu en dises.
Aujourd'hui,
Paris Saint-Germain est mieux arbitré que le dernier.
Je suis persuadé aujourd'hui que les arbitres qui évoluent dans les petites divisions sont de meilleurs arbitres, ont de meilleurs yeux et de meilleurs réflexes que tous les grands arbitres.
C'est pas une généralité.
Mais toi, tu prônes la déresponsabilisation de l'arbitre, c'est ce que tu veux nous dire.
Mais c'est pas que je prône, c'est que j'ai peur. Et j'ai peur que demain, vu l'ampleur que ça prend, que demain, tous les sports soient jugés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les actions des hommes soient jugées par les machines. On n'en est pas là, mais on va vite y venir.
Je reprends la main.
L'intelligence artificielle, je ne sais pas si tu as un peu mis le dé dedans, mais ça va à une vitesse hallucinante.
Je reprends la main, s'il vous plaît.
Sur ta descente par une machine qui dira Martineau, troisième et pas deuxième.
Elle s'est dissipée ce matin, les
gars. Mais oui, on est là pour débattre.
Oui, vous n'êtes pas les seuls. Si j'ai perdu l'habitude de débattre, je vais convier, voilà, quelqu'un qui va apporter son expertise à ce débat.
Monsieur IA.
Un ancien arbitre international. Je vais me prendre pour Michel Dré. Voilà, je vous présente Bruno Rebeu, qui a fait le 32-16, ancien arbitre international de tennis. Premier arbitre français à avoir arbitré, sauf erreur de ma part, 10 finales d'affilée à Roland-Garros. Bonjour Bruno, merci d'avoir fait le 32-16.
Bonjour. Merci. Bonjour,
salut
Bruno.
Mais Bruno, il n'avait pas besoin de 15 machines pour dire que la balle était fauteuil.
C'est la question que je m'apprête à lui poser, Bruno. Vous officiez lorsque le Hawkeye, l'intelligence artificielle, la vidéo, l'assistance technologique a été introduite. Comment vous aviez accueilli cette innovation et est-ce que vous trouvez qu'elle a fait du bien au tennis et à l'arbitrage?
Alors, pas du tout. Moi, je n'ai jamais arbitré avec le Hawkeye. Vous voyez, je suis beaucoup plus
ancien. C'est arrivé après votre retraite. Bon.
Mais non, moi, j'ai jamais arbitré avec le Hawkeye. Alors, c'est vrai que cette nouvelle technologie est venue. Donc, je vais pas faire le vieux con, comme on dit. Mais oui, ça a apporté une certaine sérénité. Moi, aujourd'hui, je vous ai tous écouté tout à l'heure. Vous avez tous dit pas mal de vérités. Mais je crois qu'aujourd'hui, les arbitres qui donc officient en ce moment, ceux qui étaient à Monte-Carlo et qui sont cette semaine à Monte-Carlo et tous les autres que je connais très bien, ce sont d'excellents arbitres, de très très bons arbitres. Simplement, ces arbitres-là n'arbitrent plus depuis de nombreuses années. Maintenant, ils sont retranchés derrière la technologie et ils ont de moins en moins de réflexes parce qu'ils n'arbitrent plus. Il faut simplement le dire. Maintenant, il y a pratiquement plus de juges de ligne. Il y a le Hawkeye partout, donc du jour au lendemain où ils doivent se mettre sur un court où ils n'ont pas de Hawkeye, où il y a de la terre battue, vous savez, l'œil est un muscle et si donc on ne sait pas travailler tout le temps, au bout d'un moment on manque donc de certains réflexes. Alors je dirais aujourd'hui soit donc on supprime complètement l'arbitrage et on passe à l'électronique, pourquoi pas, allons-y. Soit, mais je pense que de rester entre les deux, il faut pas le faire. Y a aussi une autre chose quand on dit que l'électronique va tuer l'arbitrage, ça va peut-être pas le tuer au haut niveau parce que on aura de l'arbitrage électronique sur tous les grands tournois. Simplement, il faut pas oublier que là,
ça va créer un fossé entre
là à l'heure actuelle où on se parle, il y a des dizaines de milliers de matchs qui se jouent dans toutes les villes de France, des matchs des championnats par équipe, etc. où ils ont absolument besoin d'arbitres parce qu'ils n'auront jamais le Hawkeye. Et n'oublions pas que tous les arbitres qui officient donc à Monte-Carlo, qui officient au Grand Prix de tennis de Lyon, qui officient à Roland-Garros, etc. Tous ces arbitres-là sont sélectionnés parce qu'ils ont tous une activité tout au long de l'année et qui vont donc arbitrer dans les petits clubs pour justement passer après 8 jours à Monte-Carlo ou 15 jours à Roland-Garros. Si demain il n'y a plus d'arbitres sur ces grands tournois, oui. Est-ce que les arbitres de tous les jours vont vouloir arbitrer dans les petits clubs le dimanche matin dans une salle qui n'est pas chauffée, donc en plein hiver, pour arbitrer deux joueurs de troisième série ou de deuxième série? Je pense pas s'il n'y a plus cette carotte. Je suis un peu inquiet pour l'avenir de l'arbitrage français, voire même donc à l'étranger. Est-ce qu'il faut complètement supprimer l'arbitrage? J'en sais rien. Oui, peut-être, parce que comme Sarah le dit, les joueurs de tennis entraînent toute leur vie pour mettre une balle sur la ligne et quand elle est jugée à l'inverse, c'est sûr que ça les met donc dans des colères. Mais il faut faire attention aussi à ce qu'on fait parce que l'arbitrage va complètement disparaître. Et moi, je suis. Il y a quand même 95% des arbitres qui vont arbitrer à Roland-Garros. Ils sont donc des arbitres amateurs qui arbitrent toute l'année dans les ligues, dans les clubs, pour justement avoir cette carotte et d'arbitrer les grands grands tournois. S'il n'y a plus de juge de ligne à Monte-Carlo, que va devenir l'arbitrage en France ?
Bruno Rebeu, ancien arbitre international, légende de l'arbitrage dans le tennis français. Je précise à nos auditeurs, hein, avant de me faire ridiculiser sur les réseaux sociaux, vous avez composé le 32-16 comme un auditeur. Hein. Vous êtes descendu de votre chaise, vous nous avez appelé parce que vous souhaitiez participer à ce débat, et c'est passionnant de vous entendre. Vous soulevez un point qui, je le pense, hein, est fondamental, c'est la rupture, je le disais dans l'intro, de l'universalité du sport entre la pratique amateur dans les clubs du dimanche. Bon, bah, s'il y a litige, on se met sur la tronche, on peut pas, il n'y a pas le hokai qui nous dit elle était dehors, elle n'est pas dehors.
C'est semi-amateur. Parce que, effectivement, t'as le amateur, et tu as effectivement des championnats qui sont semi-professionnels.
Sur la carotte, ça m'inquiète un peu quand même. Ce qu'il dit sur la carotte de hockey, il y a des gens qui sont prêts à aller arbitrer des matchs, des petits matchs, parce que derrière, ils savent qu'ils seront placés sur des plus gros matchs et que c'est ça qui les intéresse. Moi, ça me fait flipper. Hein.
Pourquoi
Parce que, heureusement que, pour faire un petit parallèle avec ce que je connais et le ski, heureusement qu'il y a des gens qui se forment et qui sont OK d'aller juger des petites Coupes de France ou même des Coupes d'Europe avant, sans avoir forcément.
En fait, effectivement, les gens, quand tu fais de la promotion pour l'arbitrage, donc dans une fédération, dans notre fédération, en fait, quand tu es licencié, on te propose aussi des formations d'arbitrage parce que les enfants, entre eux, peuvent s'arbitrer sur des matchs. Et puis après, tu as des adultes qui s'y mettent. Et le fait de vouloir monter en compétences parce que tu as des différents badges, et de savoir que peut-être un jour, en investissement des week-ends, la récompense ultime pourrait de se dire, je vais aller sur une chaise à Roland-Garros, reste quelque chose de motivant, parce que tu pourrais dire, attendez, moi j'ai communion ce week-end, j'ai
le baptême le week-end, j'ai ma... Sarah, oui. Tout le monde n'a pas Roland-Garros, c'est le cas de tous les sports et de tous les gens.
On est d'accord, mais donc
c'est
pour ça que Bruno mettait le doigt sur le fait, attention à cette pyramide qui à un moment pourrait être fragilisée.
Ça c'est propre au tennis.
Parce qu'il y a une belle récompense et tout le monde n'y va pas, on est bien d'accord.
Allez Pascal, rapidement le mot de la fin.
Oui, est-ce que décemment vous croyez que l'arbitrage humain va disparaître?
Mais non,
arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Arrêtons. Arrêtez le catastrophisme.
De rêver ou de cauchemarder.
Voilà. Franchement, arrêtons.
Les juges de ligne vont peut-être disparaître, en tout cas. Bon, je remercie Bruno Rebeu, ancien arbitre international, d'avoir fait le 32-16 et d'être venu nous éclairer sur ce débat. On est très honorés que vous ayez pris cette peine ce matin. Bruno, merci beaucoup. Et quand vous voulez. Sur RMC, je ne sais pas si Bruno m'entend.
Merci, c'est gentil, bonne journée et vive donc le tennis et vive l'arbitrage.
Voilà. Et vive le Masters,
vive
Bruno.
Le sport bon après-midi.
Et vive Nice.
Et vive le Masters, évidemment, on parle de
golf.
De golf, évidemment. Merci beaucoup.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup
Bruno. Merci beaucoup Eric. Eric Salio, qu'on retrouvera au commentaire de la finale de Monte Carlo. Attention au coup de soleil, Eric. Hein,
c'est marrant parce qu'au moment où Bruno est intervenu, il y avait les juges de ligne qui ont fait une photo souvenir sur le cours central.
Et
je me demande s'ils savent s'ils reviendront l'an prochain. Tu vois.
Et voilà. Et ben, oui. Ben non, ils ne reviendront pas. Et donc,
petit à petit,
la fin de l'arbitrage. Bon, on vient les arbitres des terrains de jeu.
Un truc très important, et j'espère que Gilles Moreton va garder les juges de ligne à Roland. J'espère.
Il serait bien à terme.
C'est la mort d'une chose.
Et surtout, c'est de virer les entraîneurs.
On aime se balayer des juges de ligne, ces gestes pour dire elle est dedans, elle est dehors et tout. Cette chorégraphie. Merci beaucoup. Eric, on se retrouve pour la finale.
Au fond du cours,
rude Tsitsipas et non pas Djokovic Sinner. On en reparlera un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Eric. À tout à l'heure sur l'antenne de RMC.